Yo creo que todas las ciudades son peligrosas, La Paz, El Alto, Berlín, todas tienen de alguna manera una suerte de riesgo y peligro, ¿no? Sin embargo, es decir, en concreto, cuando uno visita, es una de las ciudades más tranquilas, ¿no?
Bon, en général, je pense que toutes les villes sont dangereuses, non? La Paz, l'Alto, Berlin, je sais pas. Mais je crois que l'Alto, c'est l'une des villes les plus tranquilles.
Un dromadaire sur l'épaule, Mélanie Croubalian et Monsieur T.
Bonjour à tous, bienvenue en Bolivie. Aujourd'hui à La Paz, c'est le printemps, des éclaircies, zébrés d'averses et une température de 6 degrés. Et pour ce premier jour de voyage sur l'altiplano bolivien, comme tous les voyageurs qui arrivent par la voie des airs, on atterrit à El Alto, la bien nommée, puisqu'on peut traduire ce nom par la haute, juste au-dessus de La Paz. C'est à plus de 4000 mètres d'altitude. El Alto, c'était autrefois la banlieue de La Paz. Aujourd'hui, c'est devenu une ville à part entière. C'est là qu'habitent les plus pauvres et c'est de là aussi que sont partis les bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué l'histoire de la Bolivie. Entre 2003 et 2005, les habitants d'El Alto, en grande majorité d'origine amérindienne, ont réussi à renverser deux présidents en moins de 20 mois, des présidents bien sûr blancs et néolibéraux. Sous la pression populaire partie d'El Alto pour réclamer la nationalisation des réserves de gaz du pays, les présidents Gonzalo Sánchez de Lozada et Carlos Mesa avaient abandonné le pouvoir. Et puis en décembre 2005, Evo Morales est élu, c'est le premier président d'origine amérindienne ou Aymara, le peuple indigène de la Bolivie. Depuis son accès au pouvoir, le pays a pris un virage serré à gauche. Le président Morales défend sans compromis les droits indigènes et se bat sans relâche contre la corruption. Corollaire de cette politique anti-libérale et anti-impérialiste, les mouvements autonomistes venus de la plaine et de la riche minorité blanche de Bolivie s'intensifient. Au point qu'en septembre dernier, on déplorait des dizaines de morts dans la province de Pando, à l'est du pays, suite aux affrontements entre partisans et opposants d'Evo Morales. Pour le gouvernement, pourtant, le coupable est hors des frontières. Evo Morales accuse Washington de soutenir la lutte des opposants de droite à travers l'aide au développement. Et en septembre dernier, l'ambassadeur américain en Bolivie est prié de quitter le pays. Denis Roland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, vous êtes directeur de recherche à Sciences Po à Paris. Vous avez aussi dirigé la publication d'un ouvrage paru en novembre 2007 aux éditions de l'Harmattan qui s'intitule « Pour comprendre la Bolivie d'Evo Morales ». Alors est-ce qu'on peut vraiment la comprendre, cette Bolivie d'Evo Morales? C'est très compliqué.
Alors effectivement, c'est la première et bonne question. C'est un pays extrêmement complexe, extrêmement divisé aussi, hein, géographiquement. Et du coup, c'est vrai que ça n'est pas facile d'appréhender correctement cette réalité bolivienne. Juste une petite chose, au-delà de nos bonnets colorés, pensons quand même que les deux tiers du territoire bolivien sont des plaines tropicales et pas cet altiplano dont on va parler.
Mmh, dont on va parler d'ailleurs toute la semaine. Et c'est vrai que là, l'opposition, elle est non seulement entre gauche et droite, mais aussi entre haut plateau et plaine, si j'ai bien compris.
Oui, et puis elle est surtout entre populations très indiennes, populations blanches ou métissées aussi. Et c'est pour ça que même les contrastes que vous venez de donner, qui sont vrais, à savoir qu'Evo Morales est très antilibéral, très anti-impérialiste, etc., avant tout, c'est un indigène qui est arrivé au pouvoir, et rien que ça, c'est une révolution dans le pays. Et donc je ne sais pas si c'est antilibéral, anti-impérialiste, c'est en tous les cas, pour la première fois, la population indigène qui, en Bolivie, s'est approchée du pouvoir.
On peut dire que Evo Morales, maintenant, après 3 ans pratiquement de pouvoir, au pouvoir, façonne une Bolivie différente.
Écoutez, c'est extrêmement compliqué. Oui, effectivement, il est à la tête d'un gouvernement qui pense la Bolivie différemment. Ça n'est plus un gouvernement qui pense la Bolivie pour des élites qui se vivent plus ou moins européennes. c'est un gouvernement à la tête d'un pays qui se pense comme multiethnique. Rien que ce mot-là aurait pu apparaître au 19e siècle, au début du 20e siècle, comme une grossièreté, hein, et qui se pense comme un pays majoritairement d'Indiens et de Métis. Donc ça, effectivement, Evo Morales change la donne. Le problème, c'est que ce pays qui a comme devise l'union et la force est au bord du morcellement, de la division.
On reparlera tout à l'heure de ces mouvements autonomistes qui venus de la plaine et des Blancs et des Métis par opposition aux Indiens. On reparlera de tout ça avec vous tout à l'heure. On reparlera de l'histoire de ce pays, de l'histoire compliquée de ce pays. Pour l'instant, je vous propose de plonger avec nous, si vous êtes d'accord.
Absolument.
Plutôt de grimper, allons-y. Puisqu'on va grimper au cœur de la cordillère des Andes, dans l'une des villes les plus hautes du monde. C'est El Alto, juste au-dessus de La Paz. Je disais tout à l'heure, c'est là qu'on atterrit quand on arrive en avion. C'est votre cas, Stéphane Herzog. Vous nous emmènerez toute cette semaine à la découverte de ces deux villes. Alors, vos premières impressions à votre arrivée à El Alto ?
Bien, je suis arrivé la nuit et on atterrit au-dessus d'un grand plateau de lumière. Alors, il y a un petit peu de stress parce que quand on sort de l'avion, on sait qu'on va sortir à 4000 mètres. On se demande comment ça va se passer.
Vous vous êtes senti mal en sortant de l'avion ?
Non, j'étais surpris, agréablement surpris, tout se passait bien, mais en général, les problèmes d'altitude, les symptômes, ça se passe un petit peu plus tard, le jour après ou la nuit après, où là j'étais un petit peu malade.
Vous avez été malade, vous avez ressenti, parce que tout le monde n'est pas atteint du mal d'altitude, mais vous ?
Non, c'est un peu comme le mal de mer, ça dépend des gens, des moments, mais moi effectivement, je suis assez sensible à l'altitude, et néanmoins j'ai pu quand même survivre et même monter à 6000 mètres, donc voilà, c'est possible même pour des gens qui ne sont pas très habitués.
Vous vous êtes soigné d'ailleurs à La Paz hein, pendant quelques jours lors de votre arrivée, et puis ensuite vous avez décidé de remonter à El Alto, vous nous proposez là deux jours, aujourd'hui et demain, à El Alto. On va découvrir cette ville qui est peut-être un petit peu moins connue des touristes que La Paz. On commence donc par El Alto. Comment on y va à El Alto depuis
Alors,
La Paz ?
C'est simple, on est au cœur de La Paz, on regarde juste les petits minibus chargés à bloc qui montent le long de l'autoroute, et une autoroute, l'autopiste, qui vous permet d'aller à El Alto en moins d'une demi-heure.
Pour l'instant, on est encore à La Paz. On embarque avec vous à bord d'un de ces collectivos, ces taxis collectifs en forme de minibus qui nous emmènent direction El Alto et le centre culturel Huaynatambo.
Voilà, on est dans l'autobus qui monte dans le collectivo et on est avec un chauffeur de collectivo qui va nous se présenter et nous dire un petit peu comment c'est son travail ici.
Yo me llamo Javier Guerrero, trabajo de chofer 18 años en el sindicato 22 de septiembre.
Je m'appelle Miguel Herrera, je crois. Je travaille comme chauffeur il y a 18 années.
Est-ce qu'il fait toujours le même chemin en direction de l'Alto ?
Généralement, oui. Sí. À la semaine, une fois, nous avons une ruta qui baja pour la casetera antigua.
Oui, en général, oui, mais parfois, je prends une route qui descend de l'Alto à La Paz par la route antique, l'ancienne route.
Des routes où il ne faut pas payer. Est-ce que lui-même est un habitant de l'Alto ?
Usted c'est de l'Alto ou de La Paz ?
De l'Alto. L'Alto de Rio Seco.
Oui, j'habite à l'Alto dans les quartiers de Rio Seco.
Il peut nous dire un petit peu comment c'est là-haut, son quartier ?
En síntesis, c'est un barrio popular, ya poblado, pequeñas viviendas. Et yo radico ahí casi 12 años en esa zona.
Ben, cela fait 12 années que j'habite là-bas et c'est un quartier populaire, et il y a de petites maisons et c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier à El Alto en fait ? Est-ce que c'est une ville qu'il aime ?
En particulier, c'est une ville qui está creciendo bastante, un tiempo esta parte. Está habiendo mucha población, ya. Se está extendiendo por todos los alrededores. Et le climat n'est pas tant comme on se dit, mais acceptable.
Ben, c'est une ville qui est en train de croître vraiment en vitesse. Mais ben, c'est une jolie ville, mais le climat n'est pas tellement favorable, il fait trop froid à l'Alto.
Est-ce que s'il avait la possibilité, il irait vivre à La Paz?
Si, il allait con gusto, si il y a possibilité. Pero yo estoy acostumbrado mucho tiempo allá en el Alto. La costumbre hace mucho.
Oui, je le ferai, mais quand même je suis habitué à vivre à l'Alto.
Est-ce qu'il peut nous décrire sa journée de travail et puis comment ça se passe?
Generalmente trabajamos 15 horas en el día. Salimos 5 de la mañana, descansamos 8, a veces 7, normalmente 9, así, por medio de horario.
Et la journée de travail, ce sont des 15 heures. On se lève à 5 heures du matin et parfois on a un petit repos à 7 heures ou 8 heures du matin.
Est-ce que c'est un bon métier qui permet de faire vivre sa famille?
El trabajo es duro, sí, se corretea, se hace modos por querer ganarse algo, ¿no? Pero seguramente hay todavía, sale, se gana algo seguro, no mucho para de la familia.
Oui, on gagne quelque chose pour survivre. Mais quand même, c'est dur, mais il vaut la peine.
Il y a un jeune homme qui est chargé d'annoncer les stations, d'expliquer où il va. Comment ça marche avec lui? C'est son collègue? C'est son employé?
Ah, él es el copiloto, el amigo, amigo y compañero de trabajo. Copiloto, le decimos a los ayudantes.
Bah, on l'appelle comme le copilote, no? C'est mon ami, c'est mon aidant.
Mon aide, il m'aide.
Oui.
Voilà, donc c'est le copilote qui s'appelle comment?
Comment se llama el copiloto?
Se llama David.
David. Il s'appelle David.
Ok. Muy bien. Muchas gracias. On est comment se llama que esta plaza?
Azurduy, Juana Azurduy de Padilla.
Juana Azurduy.
De Padilla.
Juana Azurduy.
Juana Azurduy.
Voilà.
Por aquí, ¿no?
Sí, sí.
Pas beaucoup de pluie ici, mais c'est un peu plus tranquille, non?
Ouais, c'est bien. Voilà, on se balade dans l'Alto et on demande un petit peu notre route. Et là, je suis avec Sébastien Suarez qui m'accompagne dans les rues plates de la ville et on va à la rencontre du centre culturel Huaynatambo. On n'a pas du bitume au sol, mais on a des pierres, des sans-piétrins, des petites pierres encastrées en guise de route. La lumière est fabuleuse, elle commence à être rasante. Alors, presque toutes les maisons sont en briques. Elles font un étage, deux étages, trois étages maximum. Alors, tout est rouge, tout est briques rouges. C'est assez étonnant. Ça a l'air plutôt sage par ici pour l'instant.
Nice. 5 heures.
Voilà, 5 heures, soleil couchant, quartier de
Villa Dolores.
Nous sommes devant une maison de deux étages qui a été peinte. Il y a des montagnes enneigées qui sont peintes. Il y a le dieu des mines, El Tío, le dieu dangereux des mines qui est ici. Et on a le titre Huaynatambo qui figure en lettres de couleur sous une montagne.
Et puis, c'est la montagne Huayna Potosí.
Donc voilà, on a rendez-vous aujourd'hui à 5h pour voir monsieur
Santos,
qui est le responsable de ce centre. Et on entre direct dedans, Casa Juvenil de las Culturas Huayna Tombo. Et ils ont visiblement une radio. Donc on arrive directement dedans.
Qu'est-ce qu'on voit? Un cours de danse magnifique. Donc, on arrive, on voit un cours de danse. De musique. Ils peuvent juste nous dire en un mot ce qu'ils préparent.
Ah, yeah, somos un taller de danza folclórica.
On est un taller de danse folklorique.
Que estamos ensayando acá en el espacio de Huaynatambo.
Okay. On fait des leçons ici à Huaynatambo.
Y estamos armando ahorita una coreografía de una danza de Tarija, del departamento de Tarija.
Et maintenant, on est en train de faire une chorégraphie d'une danse de la zone de Tarija.
Voilà, on les laisse à la répétition de danse. On vient voir le patron du Huaynatambo qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait.
Estamos en la zona Villa Dolores, es el distrito 1 de la ciudad del Alto. Es más o menos el centro, el distribuidor de la ciudad del Alto. Estamos a 4.000 metros de altura aproximadamente. Es una de las ciudades más jóvenes del país.
On est dans l'Alto, on est dans le quartier Villa Dolores, dans le district 1. On est dans le centre de l'Alto, c'est le distributeur, disons, de l'Alto, à 4000 mètres d'altitude.
Quelle est la raison d'être de cette maison? Quels sont ses buts principaux?
Fundamentalmente, es una apuesta por la afirmación identitaria de los jóvenes, identificación con su cultura, con sus raíces culturales, pero al mismo tiempo estamos hablando de jóvenes contemporáneos abiertos a la cultura mundial, contemporánea, pero afirmado en sus raíces.
Bah, c'est de l'identification avec les racines culturelles des gens d'ici de l'Alto, mais des gens qui sont aussi ouverts à la culture du monde, mais toujours en sachant que sa culture appartient ici.
Así es, hay una multiplicidad de actividades, desde el teatro, exhibición de películas, documentales, ciclos de películas, festivales de literatura, festivales de música, encuentros de música, tanto en el espacio físico como este, como también en ferias itinerantes en distintos barrios de La Paz y del Alto.
Il y en a beaucoup des activités, surtout il y a du théâtre, il y a des festivals de littérature, de films. Mais ensuite, il y a aussi des activités qui se mouvent par l'Alto et par La Paz, non? Des activités qui sont présentées dans la ville, pas seulement dans cet endroit.
Souvent, les gens en fait, qui sont de passage à La Paz ne vont pas à l'Alto parce qu'ils pensent en fait, que c'est un ghetto et que c'est une ville dangereuse. Alors comment est-ce que lui, il réagit à ça?
De hecho, yo creo que todas las ciudades son peligrosas. La Paz, el Alto, Berlín, todas tienen de alguna manera una suerte de riesgo y peligro, ¿no? Sin embargo, es decir, en concreto, cuando uno visita, es una de las ciudades más tranquilas, ¿no?
Bon, en general, je pense que todas las ciudades son dangereuses, ¿no? La Paz, el Alto, Berlín, je sais pas. Mais, je crois que l'Alto, c'est l'une des villes les plus tranquilles.
Est-ce qu'un jeune qui vient de l'Alto, qui va chercher du travail à La Paz, va être victime de racisme parce qu'il vient de l'Alto?
Triple discrimination. Por su discriminación, por ser joven, generacional, étnica. Por ser aymara. Y al mismo tiempo, porque la ciudad es una de las ciudades más pobres. Por ser pobre, aymara. Y por ser joven.
Oui, il y a une triple discrimination. Premièrement parce qu'il est pauvre, deuxièmement parce qu'il est aymara et troisièmement parce qu'il vient, et il est jeune et il n'y a pas beaucoup d'expérience.
Alors maintenant on fait la visite des
lieux avec visita.
Monsieur Santos dans le centre Huaynatambo. Bon, on peut être dans un lieu dédié à la peinture, on dirait. Est-ce qu'on peut aller voir la radio?
Podemos ver la radio.
Y a suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia.
Alors, on va demander à Monsieur Santos qu'il nous dise quel style en fait de musique on va rencontrer dans ces petites productions.
Este espacio fomenta producciones culturales. En el caso nuestro, miramos con, y nos interesa, por supuesto, visibilizar y apoyar la producción. Música tradicional autóctona de las comunidades indígenas creadas por grupos de espacios urbanos juveniles.
Donc, des groupes de jeunes qui produisent de la musique folklorique, indigène, on va dire. C'est quoi comme style? Il peut nous donner le nom? Ça s'appelle comment?
Nos puede dar el nombre de este estilo?
Música folclórica.
Voilà, ¿no? De la musique folklorique d'abord.
Y está también la música que hace referencia, que es el rap andino, ¿no? Y es un poco el norte, el horizonte por el cual nosotros tiene sentido nuestra existencia. En un mundo globalizado, ¿no? Como es el rap tiene presencia fuerte aquí en el Alto, hay un movimiento de rap, pero que tiene características propias, que es cantado y es ampliado con grupos autóctonos tradicionales y cantados en lenguas indígenas, aymaras, pero también reivindicando a sus propios líderes indígenas.
Alors, c'est intéressant parce que ici, on écoute aussi du rap, parce que c'est un mouvement mondial, ¿no? Mais ce que c'est important, c'est que les chanteurs ou les gens qui chantent le rap, ils le chantent avec ses propres perspectives, en chantant dans sa propre langue, en chantant avec ses propres buts, ¿no? C'est ça.
Quels sont les sujets récurrents qui reviennent dans les textes de rap? De quoi les jeunes parlent en premier lieu?
Bueno, van desde distintas temáticas, un poco planteando incluso sus propias problemáticas, desde los niños de la calle, hasta planteando el tema de la unidad de América Latina o desde las reivindicaciones identitarias del movimiento indígena, pero cantada, reasumida, reinterpretada por contextos urbanos, asumiendo un mismo patrón cultural en contextos urbanos. A eso me refería cuando decía, es decir, lo que intentamos hacer es crear este orgullo de sus raíces culturales, pero abiertos al mundo.
Il y a beaucoup de sujets dans les paroles de musique rap. Il y a des sujets par rapport aux enfants de la rue, à la unification de l'Amérique latine. Mais les sujets, disons, récurrents, c'est que les chanteurs revendiquent son identification avec sa culture.
Est-ce qu'il y a une culture, parce que finalement, les gens sont aymara à La Paz et également à El Alto, hein, dans les deux cas, c'est une majorité des gens sont aymara, mais est-ce qu'il y a une identité de El Alto?
Sí, yo creo que hay La Paz, El Alto, la ciudad de La Paz, uno puede decir es la misma. Sin embargo, aquí en El Alto la presencia de la gente migrante es mucho más fuerte que en la ciudad de La Paz.
Ce qui est différent entre El Alto y La Paz es que en El Alto on trouve beaucoup plus de migrantes.
Entonces, hay elementos comunes con los sectores populares. A pesar de eso, la migración del Alto, en el caso del Alto, la gente vive con un pie en el área rural y vive con un pie en el área urbana.
Alors, les gens del Alto, ils habitent dans un pied à l'Alto et dans un autre pied dans la zone urbaine.
Y esa es una de las características de la ciudad del Alto. Hace rato me preguntaba sobre el tema laboral de los jóvenes. Es una de las ciudades más pobres del país. Y solamente se puede explicarse por qué la gente sobrevive aquí, porque en tiempo de cosecha en tiempo de siembra y cosecha vuelven al área rural, no han perdido su acceso a sus tierras en el área rural. Pero después de la siembra y la cosecha, otra vez están en el mundo urbano sobreviviendo, es decir, generando su ingreso diario.
Donc, si j'ai bien compris, il y a des périodes où les gens vont encore dans les champs pour faire la récolte.
Oui, c'est ça, la
récolte. Et pendant une autre partie de l'année, ils restent dans la ville. C'est juste? Oui. Alors, les gens vont cultiver quoi, par exemple, typiquement?
Aquí en el altiplano, desde papa, chuño, habas, habas, arberjas, lo que da más o menos la producción agropecuaria. Aquí, desde el criado de ganados, que tiene que ver con ovejas, chanchos, llamas, ¿no?
Bon, il y a de la cultivation de pommes de terre, de chuño, que c'est de la pomme de terre hydratée. Et puis il y a aussi des arvejas, je ne sais pas comment on dit. Et puis il y a aussi.
Différentes céréales.
Oui, il y a différentes céréales. Et aussi il y a, il y a des llamas, il y a de bouffe, il y a des cochons, non, la création de ce genre des animaux.
1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira los jailones paseando por el prado, diciendo que yo no les agrado, que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Chequea, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos jailones me critican, no me interesa, porque aquí la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí. Si estás necesitado, culpa, estamos ahí.
Ok. Alors, on est dans l'Alto, un croisement de rue, lumière très belle sur les couchants. On est avec Monsieur Santos et on lui demandait pourquoi est-ce que c'est toutes les maisons, la plupart du temps, elles sont faites avec des briques, il n'y a pas du tout de peinture.
Buena parte de las casas que estamos observando y mirando son casas autoconstruidas.
La plupart des maisons sont des maisons autoconstruites.
Y se construyen por etapas. Primero la planta baja, un pisito primero, y después recién el segundo pisito, y son en esa dinámica casi todas.
La plupart des maisons se construit d'abord par étapes, disons. No, on fait le premier étage, d'ici un année, on fait l'autre étage. Alors c'est une construction éterne, disons.
Éternelle, qui continue.
Éternelle, c'est une construction continue, éterne.
Sí, sí, sí.
Est-ce qu'une fois qu'on a, si on réussit à sa vie ici, si on réussit à faire un peu d'argent, est-ce que finalement on peint sa maison?
Non, nécessairement, no es prioridad, ¿no? Prioridad, por ejemplo, es pasar preste, la fiesta, ¿no? Hay otras prioridades, no necesariamente es darle una buena fachada a la casa, porque al mismo tiempo puedo ser preste y priorizo la fiesta, el cumpleaños, la salida del cuartel del hijo, ¿no? Se cruza.
C'est pas la priorité de peindre la maison. La priorité, ça serait plutôt de faire de la fête avec las prestes, quand il y a des événements, quand il y a un mariage, quand il y a un anniversaire.
Estar en relación con la comunidad, con la familia, con la tierra, con la Pachamama, es mucho, mucho más importante.
Oui, c'est vraiment important d'être en relación avec la famille, avec la terre, avec son entourage.
Ils sont en ville ici, mais comment est-ce qu'ils manifestent leur, comment ils restent en contact avec leur terre?
Prepare una mesita de ofrenda con dulces, con lanitas de colores. Le entrego y lo ofrezco a la madre tierra y a los achachilas. Pido permiso a la madre tierra, al Huayna Potosí, al Illimani, a los picos más elevados, entregándole mi reconocimiento, mi ofrenda, mi reciprocidad, porque me ofrece las cosas que yo tengo.
¿Y eso en una tablita? ¿Cómo es?
En una tablita, en una mesita, ¿no? Se hacen y se prende fuego y eso se va consumiendo. Y de esa manera yo agradezco a la tierra, a la madre tierra.
On fait des rituels, disons, avec une table, où on fait des offrandes, des reconnaissances à la terre pour ce qu'elle nous a donné.
Ben voilà, alors on se dit au revoir sur le bord de la maison de Wayanatumbo, avec un très très beau, c'est très beau ici aussi, c'est magnifique.
Oui, oui, c'est lindo. Estamos en realidad cerca al cielo.
On est près du ciel.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Santos.
Merci beaucoup.
Et à vous.
À vous. Et à bientôt. Hasta luego.
Hasta luego.
À bien.
Et à bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Bueno. Adios. Adios. Muchas gracias. Muchas
gracias. On quitte l'Alto pour mieux y retourner demain. Stéphane, ça a l'air quand même assez paisible quand on vous voit marcher dans ces rues de l'Alto. Pas de danger, pourtant vous dites dans le carnet de route que certains touristes n'osent pas y aller, que c'est dangereux. Vous êtes senti en danger là-bas?
Parfois, je me retournais pour voir ce qui se passait autour de moi, derrière moi. C'est quelque chose qui naît du fait qu'on raconte, qu'on dit que l'Alto, c'est un endroit qui est dangereux. Alors les gens de La Paz ne vous poussent pas forcément à y aller. Et puis c'est vrai que parmi les touristes que j'ai pu rencontrer à La Paz, en Bolivie, pas tous se rendent là-bas. Voilà, c'est un sentiment qui est un petit peu induit par ce qu'on raconte sur le lieu. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dangereux. En tout cas, pour ma part, je ne me suis pas du tout senti en danger. Puis je dois dire que je trouvais les Boliviens charmants et c'est des gens assez extraordinaires. Donc non, il n'y a pas eu vraiment de...
Aucune mésaventure.
De panique. Quand on est allé voir le centre Huaynatambo, par exemple, on est avec le traducteur avec lequel je travaillais, Sébastien Suarez, on est rentré la nuit. Le monsieur qu'on avait vu, monsieur Santos, nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème dans cette ville. Mais au moment où on l'a quitté, il a quand même un petit peu tiqué et puis il nous a donné des conseils, enfin prendre rapidement un taxi, il ne voulait pas qu'on se promène trop longtemps dans la ville. C'est dire qu'il y a quand même un certain niveau de violence qui est lié à la pauvreté en fait à l'Alto.
Demain, on y reste encore un petit peu à l'Alto. On va faire du shopping avec vous dans le marché aux puces le plus haut du monde. Merci Stéphane.
Merci, de rien.
Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste.
Pour cette première visite à El Alto, un aperçu des revendications spécifiquement andines, on le disait, de cette partie de la Bolivie, qui n'est qu'une petite partie de la Bolivie, hein, Denis Roland, puisqu'on parlait des plaines qui constituent la majorité du territoire.
Absolument.
Vous avez entendu comme nous le reportage de Stéphane Herzog depuis votre téléphone à Paris. Une réaction ?
Oh, écoutez, non, beaucoup de choses touchantes, beaucoup de choses exactes, et je trouve que le collègue qui s'est initié à El Alto a fait des choses extrêmement intelligemment sur une ville jeune. Hein. C'est une ville depuis à peine 25 ans. C'est une ville de migrants, c'est vrai. Sur le racisme, les personnes qui l'ont interrogé ont dit des choses importantes. La pauvreté, c'est le premier des racismes, hein. Mm-hmm. Avant même l'indigénité ou le fait de la jeunesse. Hein. Voilà, non, je trouve que c'est quelque chose de touchant. Et puis c'est vrai que c'est un lieu de passage où n'importe quel étranger arrive, hein, c'est l'aéroport, et en fait il s'enfuit, il a tout à fait raison. En fait on s'enfuit de l'aéroport dans des taxis protégés et on va dans le centre-ville, à La Paz. En fait on descend de l'altiplano, on arrive à 4000 mètres. D'ailleurs quand l'avion atterrit c'est tout à fait impressionnant, on passe entre des montagnes à 5 ou 6000 mètres, hein, juste à côté des ailes de l'avion. On arrive sur cet aéroport et puis... on vous met dans une boîte et on vous transporte dans un lieu considéré comme plus sûr, La Paz, ou même les quartiers sud de la ville, c'est-à-dire les quartiers plus bas, en dessous de La Paz. Plus on habite bas à La Paz ou El Alto, plus, on a des revenus importants.
Mais oui, c'est un des rares endroits de la planète où finalement les pauvres habitent plus haut que les riches.
Voilà. On ne se réfugie pas vers les hauteurs, c'est les hauteurs sont le lieu où les pauvres arrivent et où il y a cette ville jeune, la ville haute, c'est ça que le mot veut dire, El Alto, ce quartier de banlieue a grossi, pour devenir d'ailleurs aussi gros que la capitale administrative, La Paz, à côté.
Voilà, après que c'est la troisième ou quatrième ville du pays, maintenant.
Oui, tout à fait. Hein, c'est la quatrième ville du pays, mais si on rassemble La Paz et El Alto, parce qu'il n'y a pas de différence quand on monte de La Paz vers El Alto, ou quand on descend d'El Alto vers La Paz, c'est une zone urbaine continue. Hein. Simplement, on voit l'état de l'habitat qui se dégrade petit à petit quand on monte, et on arrive dans des quartiers où il y a des briques, comme disait le collègue. Souvent, c'est de la daube, c'est-à-dire de l'argile séchée, simplement. C'est de la construction la moins chère qu'on trouve. Hein.
Et bien, la construction traditionnelle aussi.
Construction traditionnelle. Construction habituelle et construction qui est la base de l'autoconstruction dans les pays où on trouve de l'argile.
Je rappelle, Denis Roland, pour les auditeurs, que vous avez dirigé la publication d'un ouvrage qui est paru en novembre 2007 aux éditions de l'Harmattan. Ça s'intitule « Pour comprendre la Bolivie d'Evo Morales ». Alors, c'est ce qu'on va tenter de faire avec vous aujourd'hui, jusqu'à 15h. Peut-être, pour comprendre, il faut retourner avant Morales. Quelle place avaient les indigènes, les Aymara, à cette époque-là ?
C'est un pays qui a été créé de manière artificielle déjà au XIXe siècle par une libération un peu autoritaire venue à la fois du Venezuela et de la Colombie actuelle avec Bolivar et puis venue du Sud avec San Martin et O'Higgins. Hein. Et puis ce pays est un pays dirigé par les élites depuis sa création qui ne regarde pas le reste du pays. Je reprends des expressions qu'on trouve pendant tout le 19e ou une grande partie du 20e siècle chez les élites. Hein. Pas toutes les élites, puisqu'il y a un vice-président blanc, par exemple, aujourd'hui. Mais c'est un pays inondé d'Indiens, hein, submergé d'Indiens. C'est souvent, ça a été la façon dont les blancs, les élites blanches ont vécu ce fait d'être une minorité blanche, même métisse, face à des populations indigènes majoritaires, diverses d'ailleurs, Aymara, Quechua et d'autres.
Une minorité qui a quand même réussi à soumettre les indigènes. Et c'était drôle parce que, en préparant l'émission ce matin, j'ai lu un témoignage, par exemple, d'un blanc de la plaine qui disait « On n'est pas du tout les mêmes, nous, la minorité de blancs, on a réussi à soumettre ces indigènes, ils ont été esclaves, pas nous ».
Absolument, il y a ça. Et rien n'est facile en Bolivie parce qu'effectivement, en plus, ces blancs des plaines tropicales, eux-mêmes, ils ont été ignorés par le pouvoir central pendant très très longtemps. Le pouvoir était administratif et politique de fait, était à La Paz. On ne regardait pas ces grandes plaines tropicales où il ne se passait rien. Et puis depuis qu'on a commencé à les mettre en valeur, qu'un certain nombre, surtout de métis et de blancs, se sont mis à cultiver pour l'exportation du soja et d'autres produits, eh bien on s'intéresse à ces zones tropicales ou subtropicales humides. Et là, effectivement, il y a eu aussi ce fait des blancs méprisés par rapport à un pouvoir central qui était blanc, mais différent, qui était à La Paz. Et ce qui fait que, eh bien, vous avez plein de mécontentements aujourd'hui, avant que Evo Morales n'arrive au pouvoir, vous avez le mécontentement, évidemment, des indigènes que le pouvoir blanc a beaucoup de mal, d'une manière générale, à regarder. Et puis, vous avez aussi les mécontentements périphériques de blancs, de métis, qui trouvent que le pouvoir central de l'altiplano ne regarde pas le reste du pays. Il faut quand même comprendre que la Bolivie, c'est un pays qui fait 26 fois la Suisse, hein, deux fois la France. Hein. C'est un pays qui, à l'échelle de l'Amérique latine, est un pays moyen. Rapporté à la Suisse, c'est déjà un très grand territoire.
C'est gigantesque. Oui.
Un territoire morcelé, qui communique difficilement. Imaginez que dans ce pays, il n'y a que 5000 km, grosso modo, de routes asphaltées. Donc effectivement, rien que ça vous dit la difficulté à communiquer. Imaginez que les avions qui partent des zones basses, certains avions, ça dépend des modèles, mais pour arriver dans les zones hautes, doivent vider la moitié de leur cargaison, y compris de passagers, pour arriver à monter très vite en grande altitude et redescendre, se poser très vite sur l'aéroport d'El Alto, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un territoire extrêmement compliqué. C'est un pays compliqué, c'est un pays qui a perdu la moitié de son territoire. Il y a peu de pays dans le monde qui ont perdu plus de la moitié de leur territoire en 50 ans, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Alors, on a parlé de Suisse d'Amérique latine. Longtemps, c'est une expression d'Élisée Reclus, un remarquable géographe du début du XXe siècle. On parle plutôt de Tibet, de toit des Andes, pour dire, ben oui, mais
il y a des montagnes.
C'est la Suisse sans la richesse.
C'est la Suisse du point de vue de la géographie, peut-être.
C'est la Suisse d'une partie, du point de vue d'une partie de la géographie, de toute la partie centrale et de toute la partie qu'on connaît. C'est vrai que le touriste, l'occidental, il arrive vers la capitale, et il voit l'altiplano. Le touriste ne descend que rarement dans les zones amazoniennes, parce que l'Amazonie, on va la voir à partir d'autres pays, ne descend que rarement vers ce sud-est, Santa Cruz en particulier, dont on parle beaucoup, parce que c'est le cœur des mouvements autonomistes aujourd'hui, et qui est une belle région, mais qui n'a pas le charme qu'on va trouver dans l'altiplano.
Mais justement, en parlant de ces régions et ces provinces autonomistes comme Santa Cruz, comme Pando, dont je parlais dans l'introduction à l'émission, ces régions autonomistes, on peut, en allant très loin, dire qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait deux pays, puisqu'ils sont tellement différents, c'est tellement difficile de communiquer.
Écoutez, je ne pense pas. C'est-à-dire que le morcellement... Alors, il faut être prudent, parce qu'en Europe, on a appris à voir dépecé certains pays antérieurs, hein, bien sûr. Moi, je ne pense pas que ce soit une solution. Et puis, je ne pense surtout pas que les militaires qui concentrent une partie du nationalisme de ce pays, laisseraient faire un démembrement du pays. Donc, je pense que pour l'instant, aujourd'hui, en Bolivie, les militaires sont calmes, mais ces militaires, comme d'ailleurs l'ensemble de la population, formés au nationalisme, formés à la revendication, à l'accès à la mer, etc., et à l'union nationale, laisseraient faire une division du pays. C'est vrai qu'on va sans doute revoir, comme on est en train de le faire, la distribution des ressources, la distribution de la présence de l'État dans les différentes régions. Mais je ne pense pas que démembrer un pays pauvre soit une solution fiable.
Vous parliez tout à l'heure du Venezuela, des pays environnants, des pays d'Amérique du Sud, le Brésil aussi. On a l'impression qu'il y a comme un très grand mouvement depuis plusieurs années à gauche de tous ces pays-là, avec Lula, avec Chavez et puis maintenant avec Morales. Est-ce que c'est un mouvement généralisé ?
C'est quelque chose de compliqué, parce qu'effectivement, entre l'Argentine, des Kirchner, Marie puis femme, le Brésil, le Lula, le Venezuela d'Hugo Chavez, aujourd'hui l'Équateur de Coréa. Il y a des gauches extrêmement différentes. Et il y a entre eux de l'une social-démocratie qui ne touche absolument pas au libéralisme, ce qui est le cas par exemple de l'Amérique, enfin du Brésil, de ce morceau de continent américain. Le Brésil de Lula n'a pas touché du tout à la réalité économique du pays. Alors effectivement, Hugo Chavez, pendant de nombreuses années, n'a pas fait grand-chose dans le pays, et puis effectivement, il a pris la tête d'un mouvement allié à Cuba, qui a proposé d'ailleurs une sorte d'intégration régionale, l'ALBA, alternative de ce que proposent les États-Unis. Mais ce sont des pays, et ça, il ne faut jamais l'oublier, ce sont des pays à l'échelle d'un énorme continent qui ne communiquent pas bien entre eux, qui n'ont pas grand-chose à s'échanger. La plupart des pays d'Amérique latine regardaient plus l'Europe ou les États-Unis jusqu'il y a quelques dizaines d'années que le pays d'à côté. Ces pays-là ne se regardaient pas. Alors effectivement, le Venezuela peut envoyer, ou Cuba peut envoyer des instituteurs, des médecins, certains experts pour le pétrole en Bolivie. Au-delà de cela, est-ce que la coopération... C'est sans doute une coopération par défaut. C'est si effectivement Evo Morales ne trouve pas d'assistance technique, etc., s'il a face à lui les élites blanches qui concentrent une partie du savoir, une partie des connaissances techniques nécessaires pour faire fonctionner le pays, s'il n'a personne autour de lui, il va effectivement chercher dans les pays voisins.
Mais par exemple, récemment, avec l'expulsion de l'ambassadeur américain de Bolivie, Chavez a suivi, il a expulsé l'ambassadeur américain du Venezuela.
Oui, mais c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est de la gesticulation, parce qu'on est quand même, avec Chavez, on est au-delà de la gesticulation. Il cherche à fonder un nouveau socialisme, etc. Mais je trouve que c'est quand même une sorte de rhétorique. Ça peut être jugé comme un signe de solidarité, c'est vrai. Hein. Sauf que, par exemple, la Bolivie, c'est un pays tout à fait différent du reste de l'Amérique latine. En Bolivie, à chaque fois que j'y suis allé, quand on parlait de l'ambassadeur, pas besoin de mettre un pays derrière, c'était l'ambassadeur des États-Unis. Hein. Et effectivement, l'ambassadeur des États-Unis était une sorte d'adjoint du pouvoir exécutif. Et sans lui, sans les accords commerciaux avec les États-Unis, sans ce qu'il fournissait pour la lutte anti-drogue, etc., il ne se passait pas grand-chose dans le pays. Et je me souviens que la première fois où l'ambassadeur de France, une femme, a invité à la résidence pour le 14 juillet, pour la fête nationale française, Evo Morales, ça a été un tsunami dans le milieu diplomatique. Mais est-ce qu'il y a des solidarités? Oui, il y a des solidarités par défaut. Le problème, c'est que ce sont quand même des pays qui produisent des matières premières, fondamentalement, qui ont besoin d'acheter à l'extérieur les produits transformés, qui vendent tous à l'extérieur leurs produits de base. Et donc, les solidarités, de toute façon, sont limitées. Puis les solidarités idéologiques sont compliquées. Chavez n'est pas du tout dans une revendication identitaire. Effectivement, Evo Morales est en plein dans la revendication identitaire.
Indienne, amérindienne. Il a beaucoup accusé les États-Unis, hein, notamment, je le disais, d'aider la lutte de l'opposition contre lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces affirmations-là? Quel est le vrai rôle des États-Unis là-dedans?
Les États-Unis ont toujours regardé de très près la Bolivie, parce que c'est le pays producteur de coca, c'est-à-dire de la matière première de psychotropes, la cocaïne notamment. Et donc, effectivement, ils surveillent ce pays producteur de coca, où la coca est une plante traditionnelle, consommée localement, etc. Bon, après, le problème, c'est qu'elle est transformée, souvent d'ailleurs ailleurs, et exportée dans les pays riches consommateurs. Mais donc, les États-Unis s'intéressent de très près à la Bolivie depuis très longtemps. Il n'y a pas de raison qu'ils s'y intéressent pas aujourd'hui. On a un gouvernement qui n'est plus un allié des États-Unis. Il n'y a pas de raison que les États-Unis ne continuent pas à s'intéresser au cœur de la production de coca. Et les États-Unis ont des relais d'influence, évidemment. Les élites qui ont été déplacées du pouvoir avec l'arrivée d'Evo Morales s'appuieraient volontiers sur une aide venue de l'étranger. Mais à l'inverse, on peut penser qu'Evo Morales aussi est soutenu sans doute par des aides techniques ou efficaces venues du Venezuela ou d'ailleurs. C'est ce qu'on dit à Santa Cruz. Alors bien sûr, on est dans une guerre d'intoxication. Ce que je voudrais simplement dire, c'est quand même que Evo Morales, ce n'est pas le président de la cocaïne, il faut que c'est clair. C'est un président qui est un ancien producteur de coca, syndicaliste de coca, de la coca, et on s'aperçoit, semble-t-il quand même, que la production par exemple de coca n'a pas explosé du tout en Bolivie depuis qu'Evo Morales est arrivé au pouvoir. Au contraire, certains chiffres, certains rapports de l'ONU disent que, par exemple, la production de coca est bien mieux contrôlée en Bolivie qu'en Colombie, alors que la Colombie reçoit une manne financière incroyable venue des États-Unis. Donc on est quand même sur des conflits où on sent l'idéologie. Vous parliez d'anti-libéralisme, anti-impérialisme. Ben oui, tout ça est en train de sourdre derrière. Il y a le gaz aussi bolivien qui est un enjeu important, pour lequel d'ailleurs il y a des présidents qui ont perdu leur siège. Et donc effectivement, c'est un enjeu et on ne voit pas pourquoi les États-Unis aujourd'hui ne s'intéresseraient pas effectivement à la Bolivie.
On peut parler, Denis Roland, d'une nouvelle guerre froide entre les deux Amériques?
Ce qui est vrai, c'est que les États-Unis ont annoncé cet été la reconstitution d'une flotte pour l'Amérique latine. Et ça a été clairement dit à Washington, c'était face à ce que vous disiez, c'est-à-dire face à la montée de gouvernements de gauche qui affirment leur différence, parfois leur opposition aux États-Unis. Et le fait de reconstituer une flotte qui va être essentiellement dans les Caraïbes, mais qui est une flotte pour l'Amérique latine, ou contre l'Amérique latine, ou pour contrôler l'Amérique latine, est un signe fort de l'inquiétude des États-Unis face à ces mouvements d'Amérique latine, face à ces montées de gouvernements de gauche. Et Moi, je pense que c'est une réaction très démesurée. Mais enfin, si le Pentagone décide de réarmer une flotte stratégique pour l'Amérique latine, c'est que eux considèrent, à bonne ou à mauvaise loi, qu'il y a un risque dans la région. Et donc, vous parlez de guerre froide, je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Enfin, par rapport au moment où il y restait une épine dans le pied des États-Unis qui était Cuba, c'est vrai que maintenant, avec les sandinistes d'un côté, Cuba, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, alors la rhétorique argentine aussi, mais je ne sais pas si ça va toujours au-delà de la rhétorique. Lula est un homme extrêmement prudent qui vise d'abord la croissance internationale de son pays. Et c'est vrai qu'il y a un petit abcès de fixation qui fait que les États-Unis regardent de plus près l'Amérique latine aujourd'hui, bien sûr.
Dernière question, Denis Roland. Votre pronostic pour le président qui pourrait succéder après 2014 à Evo Morales? Ce serait plutôt un président de droite ou de gauche? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça un peu la question.
Il y a des choses intéressantes dans les nouvelles récentes. C'est-à-dire que notamment le vice-président blanc d'Evo Morales disait qu'il fallait au moins 5 ans pour que l'opposition se reconstitue correctement et devienne une force politique concurrentielle. Bon, bah, c'est vrai que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'horizon de la succession d'Evo Morales, il est tout à fait possible que l'opposition, qui est d'ailleurs multiple, hein, protéiforme, face à Evo Morales, cette opposition à Evo Morales, puisse regagner les élections. En même temps, il va falloir voir ce qui va se faire. C'est pas certain qu'Evo Morales reste dans une position radicale. Il y a des compromis. On l'a vu là, le 21 octobre, il y a eu quand même des compromis sur la Constitution, un accord avec une partie de l'opposition pour le futur référendum sur la Constitution et sur les expropriations des grandes propriétés non utilisées, non mises en valeur.
Ça, on votera en Bolivie en décembre, en janvier.
Oui. Et du coup, effectivement, moi je pense que, bien sûr que l'opposition est en train de se reconstituer. Une partie de l'opposition, ça a été un traumatisme, cette élection de 2005. Mais qu'est-ce qui se passera après? Vous savez, c'est difficile de savoir ce qui va se passer en 2009 en Bolivie. Quelle sera l'attitude de l'armée? Qu'est-ce que vont faire ces gouverneurs des provinces aujourd'hui les plus riches du pays? Notamment avec le gaz naturel ou l'agriculture, est-ce qu'ils vont être dans une position de plus en plus radicale? On a quand même vu des milices armées, on a vu un défi au pouvoir central. Imaginez aujourd'hui que ce soit en France ou en Suisse, qu'un canton suisse, un département français décide qu'il fasse un référendum sur le statut dans la Confédération. C'est pas acceptable, ce serait pas reconnu comme acceptable. Là, vous avez quand même plusieurs gouvernements d'État qui ont décidé de faire des référendums anticonstitutionnels sur leur rapport à la fédération. Bon, vous avez donc là un avenir très incertain pour cette Bolivie, et d'autant plus incertain que la chute des matières premières dans le tsunami financier et économique qui est en train de s'accentuer, semble-t-il, ces jours-ci, la chute des matières premières, du zinc, d'autres minerais, de l'étain, etc., va sans doute mettre en difficulté la Bolivie. La Bolivie d'Evo Morales a vécu sur la montée des ressources liées au gaz, liées au zinc, liées à d'autres métaux, l'or aussi. Là, avec la baisse des cours de ces matières premières, la Bolivie va avoir de grandes difficultés à nourrir ses programmes politiques et économiques.
Donc, bah alors, c'est une affaire à suivre, voilà, à suivre et puis à suivre de près. Merci beaucoup, Denis Roland, d'avoir été avec nous quelques instants. Je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et directeur de recherche à Sciences Po Paris. Et puis, je rappelle encore le titre du livre dont vous avez dirigé la publication. Ça s'appelle « Comprendre la Bolivie d'Evo Morales ». C'est paru en 2007 à l'Harmattan. Merci beaucoup, bonne journée.
Et dans lequel il y a plusieurs Suisses qui ont participé, d'ailleurs.
Ah, alors, voilà, ça a signalé. Acheter et puis à lire pour nos auditeurs. Merci beaucoup,
merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Fin de ce premier jour de voyage. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne sur la Cordillère des Andes. Il y avait Stéphanie Coudray pour notre assistante, Dany Sulam pour le site internet, Monsieur T pour les carnets de route, Laurent Pavia a choisi les musiques et puis Samuel Morier-Genoux avec nous en régie. Très bon après-midi à vous, Mélanie Croubalian, Stéphane Herzog. Salut à vous, il va être 10h à El Alto et tout juste 15h sur la première.